l'alphabet numérique. Ce soir, on s'intéresse à l'Internet des objets.
Soft Power, l'alphabet numérique.
L'alphabet numérique, 19h13, notre séquence alphabet numérique qui décrypte les internets autour des mots du web, de ses expressions, ses tendances ou ses évolutions. Ce soir, nous allons évoquer l'internet des objets, en anglais Internet of Things. Rebonsoir Stéphane Natkin.
Bonsoir.
Vous êtes professeur au CNAM et directeur de l'École nationale du jeu et des médias interactifs numériques à Angoulême, qui dépend du CNAM. Alors, l'Internet des objets, c'est quoi? C'est comme si l'Internet s'éloignait au fond des humains et commençait à connecter les objets physiques.
Je pense que c'est une idée qui est assez ancienne, qui date de la fin des années 90. Et effectivement, l'idée, c'est que tout objet potentiellement puisse être quelque chose qui communique sur Internet. Alors, évidemment, il faut un certain nombre de conditions. La première, c'est qu'il puisse communiquer. La deuxième, c'est qu'il ait une identité qui permet de reconnaître. Et puis ensuite, il faut qu'il ait quelque chose à dire. Pour prendre un exemple...
Vous voulez dire qu'un frigidaire doit se mettre à parler, c'est ça?
Bah, il faut déjà qu'il puisse raconter au moins ce qu'il a
dans son biographie.
Ah, voilà, exactement. Qu'est-ce qu'il aimerait bien avoir dedans là. Il y a un exemple que j'ai pris au professeur Barrett sur TED. La chaise sur laquelle je suis assise peut devenir un objet intelligent, à condition donc de lui donner une capacité de communication. Puis il faut qu'elle ait quelque chose à dire. Donc il faut déjà lui mettre un capteur pour savoir s'il y a quelqu'un qui est assis dessus, pour dire il y a quelqu'un qui est assis sur moi ou pas. Après, s'il doit reconnaître la personne qui est assise dessus, une technique serait qu'elle reconnaisse la forme de mes fesses, mais c'est quand même assez compliqué. Donc on va probablement doter un de mes boutons de culotte d'une puce qui va permettre à la chaise de reconnaître qui est assis dessus. Et donc à partir de ce moment-là, n'importe quelle personne, ou si peut-être n'importe quel objet de l'Internet, pourra savoir qui est assis pour l'instant sur cette chaise.
Alors, vous avez posé un certain nombre de conditions pour que ça marche. Il y a cette question des normes, de la technologie mise en place, des capteurs. Donc, il y a d'abord eu un débat, je dirais, technique pour avoir des systèmes d'identification et de normalisation qui allaient fonctionner.
Je pense qu'il y a eu d'abord deux choses très intelligentes pour l'époque qui ont été l'idée qu'un beau jour, il y aurait besoin de beaucoup, beaucoup, beaucoup d'adresses Internet. Ce qui a amené à l'évolution du
principal protocole d'Internet, l'IP.
Ouais. Actuellement, on va pouvoir disposer de plusieurs milliers d'adresses par mètre carré de la Terre assez rapidement autour de cet Internet. La deuxième, c'est quelques visionnaires, un monsieur qui s'appelle Mark Weiser, qui était à Xerox PARC, qui ont eu l'idée que, en fait, l'avenir de l'informatique, ce n'était pas un ordinateur pour tout le monde ou un ordinateur pour chaque personne, mais une espèce d'ensemble d'ordinateurs pour tout le monde qui s'interconnectent, qui connaissent localement les conditions de vie, d'existence, les besoins, les nécessités, et qui se mettent à échanger à partir de ça. Et je pense que c'est ces deux idées qui sont fondatrices de l'idée qu'on se fait à l'intérieur, à l'heure actuelle, de l'Internet des objets.
Alors, ça passe par des capteurs, des systèmes d'étiquetage, des solutions RFID, des ondes acoustiques, des puces optiques, etc. Quels sont les modèles en cours, même si on n'est qu'au début de l'aventure de l'Internet des objets?
Ben, pour l'instant, c'est essentiellement quelque chose qui apporte de l'information. C'est par exemple un t-shirt que je porte sur moi qui mesure sans arrêt mon état de santé.
On dit wearable, celui
voilà,
qu'on peut porter.
Absolument, et qui va renseigner éventuellement mon médecin sur mon état de santé. Peut-être ma compagnie d'assurance pour faire varier mes primes en temps réel, ce qui est peut-être moins heureux.
Certainement.
Petit à petit, où ces objets qui sont pour l'instant des moyens de recueillir de l'information auront des moyens d'agir. Ma chaise peut être d'outil d'un système pour se transformer en chaise éjectable à partir du moment où on considère que je ne dois plus être assis sur ce siège. Et puis, on parle d'objets intelligents. En général, les smart objects sont assez stupides, mais on peut penser qu'au fur et à mesure que le temps se développera, chaque objet aura une part d'intelligence pour interpréter l'information, la communiquer à l'ensemble de l'Internet et réagir en fonction de ça, en créant cet espace informatique ubiquitaire.
Stéphane Natkin, vous êtes professeur au CNAM et directeur de l'École nationale du jeu et des médias interactifs numériques. À Angoulême, on parle de l'Internet des objets. Quels sont les secteurs les plus concernés, selon vous? On parle de la domotique, de la smart house, donc la maison intelligente, de la voiture intelligente, des secteurs des voyages, etc., de la santé. Vers où vous pensez que l'Internet des objets va aller?
Je pense que le cœur à l'heure actuelle, c'est justement les espaces intelligents, que ce soit la maison, la ville. Vous avez une émission sur la ville intelligente dans laquelle on a parlé de ça. Et donc, des espaces qui reconnaissent ce que chaque utilisateur veut faire, peut potentiellement faire, et en quoi l'environnement peut l'aider.
Pierre Asclin.
Vous avez dit que les objets allaient parler, donc ils vont produire des données. Est-ce que la sécurité de ces données est suffisamment prise en compte aujourd'hui? Parce qu'on sait très bien que c'est, d'une certaine manière, le nerf de la guerre. Vous avez fait allusion au fait que votre compagnie d'assurance pourrait moduler vos primes en fonction de ce que renvoie votre t-shirt ou votre chaise intelligente. Est-ce que cette question de la sécurité des données et qui contrôle les données est suffisamment prise en compte aujourd'hui?
Je pense que vous posez une question fondamentale qui n'est pas résolue. C'est-à-dire, elle est résolue. Il existe beaucoup de gens qui travaillent sur des technologies de sécurisation des objets, mais en fait, l'infrastructure et la réflexion, la façon dont cette infrastructure va se développer, est un problème totalement ouvert.
Alain Chevaux.
Il y a effectivement la question de qui est propriétaire des données et de qui les maîtrise, mais il y a aussi la question du fait que qui veut ce monde? Qui veut ce monde au sens où on voit bien que c'est un marché lucratif, ces nouveaux objets connectés, mais est-ce que le consommateur, est-ce que le citoyen a envie forcément que son réfrigérateur commande directement ses produits alimentaires ou que son aspirateur envoie directement un signal de défaillance au fabricant? Est-ce qu'il y a vraiment une demande ou est-ce que ça va être une demande créé par l'industrie, notamment des télécommunications?
Stéphane Natkin, vous voulez que votre aspirateur parle comme ça? C'est essentiel pour vous?
Ça peut être fatigant à la longue, surtout s'il est très bavard et qu'il me raconte sans arrêt la forme de la pièce et la
surtout
quantité.
Surtout si le réfrigérateur se met aussi à parler, voilà. Les lampes.
Si se bagarre, s'il se met à se bagarrer, n'est-ce
pas? Je fuis sur une petite île déserte en Bretagne où il n'y a pas l'électricité. Moi, je pense, pour répondre à votre question, que c'est quelque part entre les deux, c'est-à-dire à l'exemple de tout ce qui se crée autour de l'Internet à l'heure actuelle, il y a des créations qui viennent spontanément des utilisateurs, qui certainement apportent des choses. Vous avez quelques créations qui viennent de mécaniques centralisées, dont l'efficacité reste à démontrer. Et puis, vous avez beaucoup de choses qui vont être des propositions commerciales assez fatigantes. C'est effectivement le cas. Et comment va-t-on trouver un équilibre dans tout ça? J'ai pas la réponse.
Alors, lorsqu'on parle d'Internet des objets, on est souvent en lien avec d'autres questions, celle du big data, celle du web sémantique, celle du cloud, qui est nécessaire souvent pour justement que toutes ces données soient conservées. Comment vous voyez en termes de définition, puisque c'est un peu l'objet de cette séquence, l'alphabet numérique sur France Culture, comment est-ce que vous voyez ce dialogue, si on peut dire, entre l'Internet des objets et d'une part le cloud, le web sémantique et le big data en termes de définition?
Je pense que l'idée qui est derrière cette relation, qui n'existait pas au départ, hein, parce que l'idée à la fois du big data et du cloud sont bien postérieures à l'idée de l'Internet des objets, c'est que comme on a vu que les objets pouvaient récupérer de l'information, on mettait tout ça dans un immense nuage gigantesque, et qu'on allait tripatouiller tout ça. La relation au web sémantique, c'est qu'il faut interpréter ces informations et aller rechercher, non pas à partir de systèmes classiques, mais à partir de modes de recherche. Il me semble que, quand même, les choses les plus intéressantes ne sont pas là-dedans. Par rapport à l'évolution du numérique, elles sont dans la rematérialisation et la relocalisation. L'Internet des objets repose des questions sur le numérique, à un endroit et avec des objets physiques,
donc géographiques.
Il y a quelques années, au moment du premier Futur Ancienne, nous avions fait une expérience où on avait, le long de la ligne de tramway au sud de Paris, installé des post-it virtuels. Ça s'appelait transport amoureux. Ça permettait de laisser dans le tramway un post-it.
Il y a des guides de voyage qui font ça aussi, partout dans le monde. Mais vous avez des petites flèches jaunes.
Voilà, C'est physiquement posé là, et on a laissé ça, ça a duré un mois, parce que c'est la RTP qui modérait, mais au bout d'un mois, les gens commençaient à s'en emparer pour laisser des messages, dire « faut pas aller à ce restaurant, le tramway ne marche pas aujourd'hui ». Donc, il y a certainement derrière tout ça des capacités pour créer des choses qui ramènent les gens dans une localité.
Pierre Aski, pour terminer, peut-être.
On dit que les entreprises françaises ne sont pas mauvaises dans ce secteur. Est-ce qu'il va y avoir une redistribution des cartes de l'industrie avec l'émergence des objets connectés, ou est-ce que ce sont les mêmes gros géants américains qui vont rafler la mise?
Je pense que vous avez donné les deux alternatives à la solution. D'un côté, il y a plein de gens qui ont plein d'idées brillantes, et en particulier en France, pour créer des objets connectés. Et d'autre part, il y a des gens qui détiennent les mécanismes du marché. Et ce n'est pas forcément les mêmes.
Dernière question, peut-être, Stéphane Natkin, professeur au CNAM. On parle ce soir de l'Internet des objets. Au fond, il y a des applications très nombreuses également. Vous parliez du tram, vous parliez des messages qu'on peut s'envoyer d'amour, des applications qui sont nourries constamment, pour le coup, par des êtres humains qui, sur les réseaux sociaux et sous de nombreuses et multiples autres formes, apportent de l'information. Est-ce que ce n'est pas plus efficace, finalement, que de l'information totalement automatisée, smart, certes, mais uniquement géré par des algorithmes?
Je pense qu'il n'y a pas vraiment une opposition. En général, ce que font les algorithmes est assez bête. Ce que font les utilisateurs, ça dépend des utilisateurs. Mais je pense qu'effectivement, l'essence de ce qui est intéressant va venir des utilisateurs et de ce qu'ils vont accepter de mettre dedans.
Donc peut-être un mélange des deux, c'est-à-dire l'algorithme plus l'être humain qui apporte ses correctifs, ses impressions, son affectif à des objets qui, eux, on manquent encore de tout ça, malgré les progrès de la technique.
Oui, mais ce n'est pas les objets qui vont faire l'Internet des objets. C'est les applications, les jeux, tout ce que peuvent imaginer les gens qui vont manipuler ces objets.